Bonjour à tous, vous qui nous suivez, là vous êtes. On est heureux d'être ensemble ce matin et nous allons en effet prendre la suite de la première épître de Jean. Ça fait partie des dernières petites épîtres, tout à la fin de la Bible. Donc vous pouvez prendre avec moi 1 Jean, chapitre 2, et nous allons faire une lecture à partir du verset 18. Je vais faire la lecture de 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Jusqu'à la fin du chapitre. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et verset 28, « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à sa venement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Ça sera le passage principal, mais je vais aussi compléter avec quelques versets en chapitre 4, puisque Jean revient souvent sur les mêmes thèmes. Chapitre 4, versets 1 à 6. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils parlent du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous savez, une question qui revient souvent pour nous, les êtres humains, c'est comment savoir qu'on sait des choses? Comment savoir que ce que l'on sait est vrai? Ou bien, ça revient à dire, qu'est-ce que la vérité, hein? C'était la fameuse question de Ponce Pilate à Jésus dans son procès. Et j'ai eu la même question sur un examen de philo en terminale. Qu'est-ce que la vérité? Donc c'est une question qui nous occupe depuis bien des années. Et ici, Jean a écrit à un groupe de chrétiens, une église, certainement à Éphèse. Et ces chrétiens sont troublés parce qu'il y avait parmi eux des gens qui se disaient aussi chrétiens, qui se disaient aussi en communion avec Dieu, mais ils enseignaient des choses contraires, notamment sur la personne de Jésus, et ils avaient une pratique chrétienne contraire à l'exemple de Jésus. C'est-à-dire, ils s'appelaient chrétiens, mais ils ne croyaient pas dans le même Christ, et ils s'appelaient chrétiens, mais ils ne vivaient pas comme Christ. Mais pour eux, ce n'était pas un problème, nous aussi, nous sommes en communion, nous aussi, nous avons la vérité, nous aussi, nous sommes chrétiens. Et ça troublait ces chrétiens. Et encore de nos jours, ça peut nous troubler. On voit des choses, des personnes, des institutions qui portent le nom chrétien, mais qui ont jeté par-dessus bord les croyances essentielles de la foi chrétienne, ou bien les commandements clairs de la Bible, en disant, voilà, tout ça, ce n'est plus en phase avec notre époque. Dieu saurait que le monde a changé. Mais normalement, une chose et son contraire ne peut pas être vrai en même temps. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, comment comprendre tout ça? Qui dit vrai, qui dit faux? De notre époque, on aurait tendance à dire que ce n'est même pas la bonne question à se poser. La vérité ou pas? On dirait de nos jours, l'important c'est la diversité, l'important c'est l'unité, Chacun doit trouver sa voie, chacun son interprétation, chacun sa vérité. Récemment, il y avait un prof qui a tweeté, qui a dit que affirmer que 2 plus 2 égale 4, c'est de l'impérialisme occidental, parce que la vérité est fluide, adaptable en fonction des cultures. Donc 2 plus 2 égale 4, c'est affirmer que c'est une vérité. Selon elle, c'est de l'impérialisme occidental, du racisme. Et c'est vrai que beaucoup estiment que la religion, les croyances, sont plus une affaire de culture, une affaire de goût. Moi, j'aime le chocolat, toi, tu aimes la vanille. On peut s'entendre. Moi, je suis italien, toi, tu es espagnol. On est ensemble. Et les uns ont la Bible, les autres ont le Coran. Voilà. Mais nous voulons rappeler ce matin que pour nous chrétiens, pour la Bible, la foi chrétienne n'est pas une spiritualité crédule, ouverte à tout. Et pour Jean, un test de la foi authentique, ça va être le souci de la vérité, l'attachement à la vérité. Et l'apôtre Jean, qu'on appelle souvent l'apôtre de l'amour, il va beaucoup parler d'amour dans cet épître, mais pour rassurer ses chrétiens, mais il veut aussi les avertir. Et nous voyons qu'il n'a pas perdu cette fougue du fils du tonnerre, et dans cet épître aussi, il dégaine contre l'erreur, contre le mensonge, pour avertir avec ce grand appel ce matin, demeurez dans la vérité, demeurez dans les enseignements que vous avez reçus. Alors, en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous voulons nous demeurer dans la vérité. Et pour cela, nous allons voir ce matin qu'il faut reconnaître l'opposition, premier point. Il faut ensuite recevoir l'onction, deuxième point. Et troisième point, il faut rester en Christ. Pour demeurer dans la vérité, il faut reconnaître l'opposition, il faut recevoir l'onction et il faut rester en Christ. Tout d'abord, Jean les appelle à reconnaître l'opposition des choses qui sont anti-Christ. Et dans les versets 18, et dans quelques mots, Jean rappelle le grand plan des âges, la chronologie de Dieu, et il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. La dernière heure. Cela rappelle que voilà, il y a tout le plan de Dieu, et depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin du monde, c'est vrai qu'on est dans une lutte qui oppose le bien et le mal, la vérité et l'erreur, la lumière et les ténèbres, Dieu et Satan. Mais depuis la mort et la résurrection de Jésus, on est entré dans le dernier chapitre de cette histoire, de ce combat. Et nous sommes dans le dernier chapitre, c'est la dernière heure. Alors c'est vrai que cette dernière heure dure plus de 2000 ans, mais nous croyons que l'étape suivante, c'est l'étape finale, la culmination avec le retour de Christ, et ce dénouement final va... Il y aura une confrontation finale entre le bien et le mal, entre Dieu et les forces du mal, entre Christ et Satan. Et ce texte et bien d'autres dans le Nouveau Testament évoquent notamment la venue de l'Antéchrist. Comme il dit en verset 18, « Vous avez appris qu'un Antéchrist vient. » Il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Donc cet Antéchrist, d'après le Nouveau Testament, est une personne qui représente, qui dirige la dernière attaque, la dernière rébellion contre Dieu, contre Christ, des choses qu'on va lire en Apocalypse, par exemple. Mais bien sûr, dans cette notion de Antéchrist, la manière que la Bible présente l'Antéchrist, il est à la fois totalement opposé à Christ, il est contre Christ, mais à la fois, il y a des choses qu'il va essayer de ressembler, en quelque sorte, à un Christ, à un Messie, à un Sauveur. Donc l'Antéchrist, on va dire, c'est plus sophistiqué qu'un terroriste qui, avec son couteau, débarque dans une église. Ça, c'est tout aussi satanique et nous vivons les drames de nos jours. Mais l'Antéchrist, il y a aussi un côté pernicieux, séducteur. Et nous avons vu ça, c'est toujours les méthodes de Satan. Le mal se déguise en bien, les ténèbres se déguisent en lumière, l'erreur se glisse dans la vérité. Ça, c'est ses méthodes depuis le début. Et ça va, selon Jean, ça va s'accentuer dans la dernière heure. Jean rappelle cette finalité, l'antéchrist ultime, mais puis il remonte le temps, il dit, jusqu'à là, il y aura plusieurs antéchrists dans ce même esprit. C'est comme lorsque vous regardez un film d'action, hein, si c'est James Bond ou Tom Cruise, vous savez qu'il y aura une grande bataille, un grand combat à la fin du film, entre l'héros et le méchant. Mais en allant vers ce en allant vers ce combat final, il y aura voilà, d'autres pièges, d'autres combats. Le méchant va envoyer ses hommes à main, d'autres personnes pour essayer de stopper l'héros. Et c'est ce que fait le malin avec ses antéchrists et plusieurs antéchrists. Donc, puisque nous aussi, comme Jean, nous sommes dans la dernière heure, nous pouvons savoir aujourd'hui qu'il y a des influences, des idées qui essaient de nous égarer, de mentir, de changer la vérité. C'est pour ça que Jean appelle les chrétiens à un esprit de discernement. Nous avons lu ça en chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, donc là il parle avec amour, mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc, les chrétiens ont besoin d'avoir une bonne dose de discernement, être prêts à éprouver ce qu'ils entendent pour reconnaître ce qui est vrai, ce qu'il faut. Et bien sûr, comme nous avons dit, ces antéchrists et leurs fausses doctrines, ils auront toujours pour un temps une ressemblance à la vérité. En écrivant ces quelques lignes, Jean pensait peut-être à son collègue Judas. Judas, qui a vécu comme disciple de Christ pendant plusieurs années, mais qui a fini par être comme un espèce d'antéchrist pour s'opposer à Jésus. Et le verset 19 explique cela. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc Judas avait cette apparence de disciple de Jésus-Christ, mais il n'était pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Et ce verset nous donne une explication pour comprendre ce qui arrive malheureusement parfois dans les églises. Des personnes qui semblent être avec nous, qui semblent être engagées avec Christ, mais qui se laissent embarquer par des erreurs, qui abandonnent la foi, ils ne demeurent pas dans la vérité. Et Jean va dire, cela n'était jamais vraiment les nôtres. Donc nous voulons reconnaître cette réalité de l'opposition, d'un combat, d'un ennemi qui cherche à introduire les erreurs et le mensonge pour se préparer, prévenir, c'est agir, comme on dit. Et Jean, c'est une des raisons qu'il écrit cette épître. Maintenant, une fois qu'on a reconnu que l'opposition existe, Jean va les aider. Et pour demeurer dans la vérité, il va dire, il faut avoir reçu l'onction. C'est notre deuxième point. Pour demeurer dans la vérité, il faut recevoir l'onction. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Il répète la même idée en verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, l'onction, c'est quoi ça? Ce mot nous semble un peu bizarre. Mais pour les gens qui ont un arrière-plan juif, et certainement Jean a écrit à pas mal de ces gens-là, l'idée d'onction, là, il le reconnaissait, parce que dans l'Ancien Testament, les gens étaient oints. D'ailleurs, c'est ce que veut même dire le mot Christ, oint, quelqu'un qui a reçu une onction. Donc, ils ne sont pas perturbés par ce vocabulaire, comme nous pouvons l'être. Et je sais que pour nous, même certains milieux utilise cette phrase, ce vocabulaire, ce mot onction, pour décrire un état ponctuel où la personne se sent particulièrement proche de Dieu, où il accomplit une prouesse spirituelle, où il a un don spirituel. Donc on va dire, voilà, notre guitariste avait vraiment l'onction ce matin. Mais ce n'est pas ainsi que j'en parle. Il reconnaît que vous avez tous l'onction, vous avez reçu l'onction. Ce matin, tous les musiciens, tous les techniciens ici, ils ont tous l'onction parce que cette onction, c'est quelque chose que tous les chrétiens reçoivent. Cette onction, c'est, voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous dirige dans la vérité, dans la connaissance. Tout chrétien reçoit cette bénédiction, cet équipement, cette capacité spirituelle de la part de Dieu, de la part de Jésus, qui nous a donné notamment son Saint-Esprit, et c'est son rôle. L'Esprit est souvent lié à la notion d'onction. Le Saint-Esprit, il est en nous et il nous éclaire, il nous aide à comprendre la Bible pour nous-mêmes, il nous dirige dans la vérité, il nous donne l'intelligence pour connaître Jésus, le Jésus de la Bible. C'est vraiment la grande nouveauté du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Tous sont oints, tous sont l'onction pour connaître la vérité. Et ça, c'est incroyable d'y penser. Tout chrétien, avec les moyens à sa disposition, avec l'aide de Dieu, avec la parole de Dieu, il peut faire la différence entre la vérité et le mensonge sur les aspects essentiels de la foi. bien sûr, il faut continuer à étudier la Bible, il faut des enseignants dans l'Église pour nous aider, mais tout chrétien, avec les moyens à sa disposition, avec cette onction qu'il a reçue lorsqu'il s'est confié en Jésus-Christ, il a l'accès à la vérité et à la connaissance. Et les implications pour une vie chrétienne, pour une vie d'église, sont énormes. On ne va pas réserver à une élite spirituelle la possibilité de nous interpréter la Bible. Tous peuvent lire et comprendre et connaître la Bible. Alors, vous allez voir ça, c'est encourageant. Des fois, vous allez voir des jeunes chrétiens, sans avoir fait de grandes études théologiques, ils vont avoir un flair, ils vont se méfier, à juste titre, par exemple, d'un discours des témoins de Jéhovah, qui nie que Jésus soit Dieu. Mais le jeune chrétien, il peut savoir déjà, en ayant placé sa foi en Jésus-Christ, « Ah, ça ne tient pas d'après ce que je lis dans la Bible. » Ou l'un d'entre vous va écouter quelque chose sur Internet. Et là, vous allez dire, « Là, ça cloche. On est en train de nier Jésus comme un sauveur, un Christ parfait, suffisant. Et on est en train de me dire, je dois devenir mon propre sauveur en faisant ceci, cela. Là, ça, c'est pas bon. » Ou un collègue va vous dire, ah, de toute façon, on adore tous le même Dieu. On entend ça souvent, on adore tous le même Dieu. Et là, quelque chose en vous va dire, non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Peut-être vous allez l'aborder gentiment, poliment, mais en tout cas, une conviction intérieure, que non, ce n'est pas la vérité ça. On ne peut pas dire qu'on adore le même Dieu si on n'adore pas le même Jésus, par exemple, qui est son fils, ce que dit verset 23. Quiconque nie le fils n'a pas non plus le père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc on ne peut pas dire on adore le même Dieu si on n'adore pas le même Jésus. Et là, ça va déjà faire un tri entre les différentes religions et les différents dieux de ce monde. Et bien sûr, nous arrivons à la manière principale de reconnaître les antichrists. C'est que l'enjeu majeur entre la vérité et le mensonge et l'erreur va souvent se focaliser sur la personne de Jésus. Verset 22 dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» C'est ça que Satan veut viser, c'est nous donner une mauvaise compréhension de Jésus pour que notre foi ne soit pas authentique une fois qu'il sauve. C'est une chose de se tromper sur une question de maths, mais les enjeux éternels ne sont pas se tromper sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, vous savez, à travers les siècles, le malin, par ses antichrists, essaie de faire passer des mensonges, des erreurs, qui empêchent une foi qui sauve. Alors, donc, vous avez peut-être entendu parler, mais à travers les siècles, il y a eu toutes les variations d'erreurs sur Jésus. Les uns, certains mouvements, certaines sectes vont dire, voilà, Jésus n'était pas vraiment Dieu. D'autres vont dire, Jésus n'était pas vraiment homme. D'autres vont dire « Jésus n'était pas vraiment mort », d'autres vont dire « Jésus n'était pas vraiment ressuscité », d'autres vont dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux différents, d'autres vont dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous la même personne. Donc, vous voyez, toutes les possibilités d'erreur existent si on s'écarte de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Et pendant les premiers 300 ans de l'Église, après Jésus, il y a eu un grand nombre de débats sur la personne de Jésus. Notamment, comment articuler la vérité de ce qu'il est, Dieu, homme, incarné, deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Comment articuler cette vérité en évitant les hérésies? Et grâce à cette onction que les chrétiens ont reçue, grâce à un travail collectif, l'Église a pu s'enrichir de plusieurs confessions de foi, des credos, des symboles. Ce matin, nous avons lu le symbole de Nicée, qui est un très connu. Elles ne sont pas inspirées, infaillibles comme la parole de Dieu, mais elles offrent des repères pour demeurer dans la vérité, et ces confessions sont nées des circonstances où effectivement il y avait des erreurs qui circulaient, et l'Église, avec l'onction, voulait demeurer dans l'enseignement. Et grâce à cet héritage, c'est vrai qu'on peut être reconnaissant, nous n'avons pas toutes les semaines des groupes hérétiques de faux prophètes qui se lèvent dans le BTM pour embarquer une partie de l'Église. On a eu, avec Vincent, on parlait, on a eu de temps en temps des personnes qui sont passées par là avec des idées bizarres. Mais heureusement, c'est plutôt rare. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'effet de cette épître, de l'effet de sa parole sur plusieurs années, même plusieurs siècles. C'est grâce à l'onction que nous avons tous lorsqu'une église est composée de véritables chrétiens. Mais on peut comprendre dans certains contextes, une jeune église par exemple, où la Bible n'est pas encore accessible, la Bible n'est pas encore traduite, n'est pas encore imprimée, où il n'y a pas encore un héritage chrétien solide, on peut comprendre que voilà, des personnes passent par là pour égarer. On comprend cet appel au discernement, le réel danger des antéchrists. Mais avec cette onction que nous avons tous reçue, nous pouvons demeurer dans la vérité. Donc, pour demeurer dans la vérité, il faut reconnaître qu'il y a une opposition. Il faut recevoir l'onction, ce qui est disponible pour chaque chrétien. Et puis, enfin, il faut rester en Christ. Dans les versets suivants, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Encore verset 27. Vers la fin du verset. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné, cette onction. C'est quoi qu'ils ont entendu dès le commencement? C'est quoi les enseignements qu'ils ont reçus? Eh bien, c'est le message apostolique, c'est le message de l'Évangile, c'est le message de Jésus. Donc, vous voyez, la meilleure façon de rester, de demeurer dans la vérité, c'est de rester attaché à l'Évangile, de rester attaché à Jésus. Et là, c'est plus que réciter un credo. Il y a bien des gens qui récitent un credo, mais qui ne sont pas forcément véritablement en Christ. Pour demeurer dans la vérité, il faut être attaché à cette personne qui est Jésus. C'est compter sur lui et lui seul pour la promesse de la vie éternelle, comme il rappelle en verset 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Demeurer en Jésus, c'est rappeler que ce qu'il a fait pour nous à la croix, qu'il a été victime pour nos péchés, il a payé pour nos péchés, il a ressuscité. Et c'est ça qui nous donne l'assurance de ne pas être éloigné de lui lors de son avènement. Verset 28, afin que nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Demeurer en Christ, c'est demeurer en lui pour le salut, c'est compter sur lui et lui seul pour nous sauver. Et là, avec ça, ça nous donne un critère. Et quand les gens essaient de nous détacher de ce message, nous proposer autre chose, ou quand ils changent la définition de Christ, qu'il fait de lui un moins bon sauveur, un sauveur moins efficace, là, on dépiste l'erreur et on revient au Jésus de la Bible, au Jésus parfait sauveur. Alors, je termine avec quelques questions. Qui est-ce que vous écoutez? D'où viennent vos connaissances, votre connaissance? D'où viennent vos croyances? D'où viennent vos convictions? Sont-elles vraies? Avez-vous une manière de savoir si ce que vous savez est vrai? Nous croyons que c'est la Bible, c'est la révélation de Dieu qui tranche entre la vérité et l'erreur. Et la raison principale que nous, chrétiens, nous croyons la Bible, c'est qu'elle rapporte la vérité historique sur Christ et qu'elle dit la vérité sur nous, sur le cœur humain. La raison principale que nous croyons la Bible, c'est qu'elle soit vraie. Bien sûr, elle apporte la bénédiction, elle apporte la joie, elle nous aide dans nos familles, dans notre quotidien. Mais la raison de base, c'est que nous croyons qu'elle est vraie, elle dit la vérité. Et lorsque les choses contredisent la Bible, nous disons que c'est l'erreur. Alors, est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on vous ment? Avez-vous plutôt écouté l'esprit de l'erreur que l'esprit de Dieu? Avez-vous basé votre vie sur ce que dit le monde ou sur ce que dit Dieu? Les infos ne vont pas souvent déclarer que Jésus est roi, qui règne et qui revient. Et pourtant, c'est la vérité. Les réseaux sociaux ne vont pas toujours vous dire que la chose la plus importante à votre sujet, c'est ce que vous en faites de Jésus. Et pourtant, c'est la vérité. Alors que Dieu nous aide à discerner la vérité dans tout ce que nous entendons dans ce monde, qu'il nous aide à discerner la vérité et y demeurer pour bénéficier pleinement de la vie éternelle et de son amour. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions de ce que nous pouvons vivre dans la vérité. Nous pouvons avoir accès à la vérité puisque tu nous as donné des enseignements par la bouche de tes apôtres. Ces enseignements ont été écrits et nous avons dans ta parole accès à la vérité. En plus, cette parole n'est pas fermée, n'est pas difficile à comprendre parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, tu nous as donné cette onction qui nous aide à comprendre et à discerner. Je te prie pour notre Église, que tout soit à l'affût de la vérité, que tu nous aides à discerner lorsque un message ou une idée n'est pas de toi. Que dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos rapports avec le monde, voilà, tu nous gardes, tu nous protèges de baser notre vie, de prendre des décisions importantes sur des choses qui ne seraient pas vraies, mais que nous puissions demeurer dans la vérité, ne pas être troublés quand on entend différentes choses, mais revenir constamment à la vérité que nous savons, cet enseignement simple que Jésus est notre sauveur et c'est le Christ parfait, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous. Merci pour ce temps de culte que nous avons vécu ensemble. Les chants aussi nous aident à être remplis de vérité. Et nous te prions que tout au long de la semaine, tu nous gardes dans notre mémoire des choses que nous avons vécues cette semaine, des choses que nous connaissons de ta parole pour nous aider. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.